La grande édition vous est présentée par Didier Arnoux. Bonjour Didier.
Bonjour Michael, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, nous ferons un point sur le risque réel lié à la présence en Corse d'une tique porteuse d'un virus originaire d'Afrique. Nous verrons aussi ce que les clients pensent du changement d'enseigne des magasins Casino en Corse. On devrait connaître le nom du repreneur potentiel d'ici une quinzaine de jours. Il sera question de politique, de l'Assemblée Adia Juventu qui se renouvelle. Un appel à candidature est lancé. Il sera également question de l'Assemblée de Corse, les grands, et de leur demande de rallonge budgétaire faite à l'État et de la flamme olympique qui s'apprête à quitter la Grèce, traverser la Méditerranée. Elle sera chez nous le 14 mai. Et tout d'abord, un accident ce matin en Balagne, peu avant 5h, ce matin à Loum, au niveau de la marine de Saint-Ambroge, collision entre deux voitures, trois blessés, dont un grave, un jeune homme de 21 ans, transféré à l'hôpital en état d'urgence absolue. D'importants moyens de secours ont été dépêchés sur les lieux par les pompiers de Calvi et ceux de l'île Rousse. Depuis l'annonce en début de semaine de la présence en Corse d'une tique porteuse d'un virus originaire d'Afrique, certains échafaudent déjà les pires scénarios. La tique Yaloma marginatum pourrait transmettre à l'homme un virus que l'on dit cousin du virus Ebola. Alors attention au raccourci, on est encore, Marion Galland, très très loin d'un tel scénario.
On l'appelle la tique aux pattes rayées et elle est présente dans l'île depuis plusieurs décennies. La nouveauté, ce n'est donc pas la présence de l'insecte, mais la confirmation que certains sont porteurs du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la FHCC. Entre 2022 et 2023, les chercheurs insulaires ont analysé plus de 5000 tiques et seuls quelques spécimens se sont avérés positifs. À ce jour, jamais aucun cas autochtone, c'est-à-dire aucune contamination locale n'a été recensée chez l'homme sur le territoire français. Cette tique n'a d'ailleurs pas d'appétence pour le sang humain. Ces piqûres sont donc relativement rares. Elles préfèrent se nourrir sur les bovins ou de petits mammifères tels que les lièvres. Chez les animaux, le virus est presque systématiquement asymptomatique. C'est aussi souvent le cas chez l'homme. Selon une étude, 10 à 20% des cas seulement développent une infection. Sans une bonne prise en charge, la maladie peut alors dégénérer et même s'avérer mortelle. Mais cela reste exceptionnel dans les pays occidentaux.
On n'en est pas encore là. 31 nouveaux conseillers de 16 à 29 ans de l'Assemblée Adia Juventu sont appelés pour deux ans de 2024 à 2026. L'appel à candidature a été fait ce matin par Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse. Cet organe consultatif est composé de 62 conseillers. La majorité est désignée par les syndicats étudiants et lycéens, l'autre par un jury d'élus territoriaux. Les dossiers de candidature sont reçus jusqu'au 31 mai, précise la présidente, qui a félicité la mandature sortante pour son bilan. Marie-Antoinette Maupertuis, micro de Paul Ortoli.
L'Assemblée Adia Juventu, à mon sens, a trois vertus. Elle permet de consulter la jeunesse corse, comme est consulté le Conseil économique et social. La deuxième chose, c'est que ces jeunes ont la possibilité, l'opportunité de s'impliquer dans la vie démocratique, de donner leur avis. Et sans tabou, véritablement. Nous avons eu des fois des questions orales très, pas virulentes, mais en tout cas très critiques. La troisième chose, c'est qu'il s'agit d'un formidable apprentissage de la démocratie dans une logique transpartisane.
Mais elle n'est pas élue, l'Assemblée
Adia Juventu. Elle n'est pas élue, mais elle est désignée pour moitié par les syndicats étudiants, les conseils de la vie lycéenne et les syndicats professionnels, et pour une autre moitié par un appel à candidature, et je lance véritablement un appel à la jeunesse Corse.
Engagez-vous.
Ah oui, engagez-vous. Oui, la notion d'engagement est fondamentale.
Et dans quelques jours, dans une quinzaine de jours, on saura celui qui s'engage avec les magasins du groupe Casino en Corse. Hier, Philippe Palazzi, le nouveau patron du groupe, était à Bastia pour rencontrer les syndicats, entrevue très attendue, hein, on le sait, de la part des syndicats, après la mise en place d'un plan de sauvegarde du groupe fin février. Et l'annonce dernièrement d'un plan social mettant en péril entre 1300 et 3200 salariés au niveau national. Pas d'annonce donc concrète, immédiate, mais des sentiments différents côté syndical. Si du côté du STC majoritaire c'est la déception, on le verra, et l'attente qui reste de mise, la CGT, elle, s'est dite rassurée, notamment sur l'emploi, par les propos du nouveau patron. Écoutez à la sortie de l'entrevue hier, Patricia Grimine, la déléguée CGT.
satisfaite et plus confiante. Il nous a donné des explications et il nous a expliqué exactement ce qui se passait. On était dans le flou, maintenant on l'est plus. Et normalement, voilà, tout va s'enchaîner et il fait tout pour que tout se passe bien. On a été rassurés, franchement on a été rassurés, voilà. C'est du positif, sur le plan social y compris. Écoutez, je l'ai trouvé dans l'état d'esprit de quelqu'un qui veut se battre pour la Corse, pour le groupe Codim, et qui fera tout pour que tout le monde préserve son emploi. Là, écoutez, moi, je vais rentrer sur Ajaccio, donc je verrai les salariés, et je pense qu'ils seront un petit peu plus confiants parce que ça se passera bien. Rien ne sous-entend, je dirais, de plan social, je pense qu'on va quand même sur un avenir plus rose que ce qu'on le pensait.
Alors si du côté de la CGT on se dit rassuré, on vient de l'entendre sur le volet social et l'emploi, du côté du STC c'est la déception et l'attente qui reste de mise. Écoutez à la sortie de leur entrevue, Eric Lounardi, le délégué STC.
On n'attendait pas, mais on est un peu déçus puisqu'on aurait aimé en savoir un peu plus sur la situation. Donc au jour d'aujourd'hui, M. Palaz nous a dit qu'il y avait toujours 4 offres qui étaient sur la table. Peut-être que dans 15 jours, on en saurait un peu plus. On s'orienterait peut-être vers des offres engageantes. Le plus important pour nous, c'est déjà de savoir à qui on a affaire. Et puis aux futurs repreneurs. Quoi. Puis après, le volet social viendra au second plan. Notre inquiétude, nous, on a fait valoir que pour nous, il était hors de question que le groupe Codim soit démantelé. Peu importe le repreneur, voilà. Nous, c'est notre condition sine qua non. Hein. Maintenant, ça fait 6 mois qu'on sait qu'on va être vendu. On arrive aujourd'hui, on pensait en savoir un peu plus. Vous comprenez bien que demain, on va être obligé de retourner vers nos salariés. On va leur annoncer un statu quo. Les gens sont très inquiets dans les magasins. On a bien compris que peu importe le repreneur, à un moment donné, va se poser l'autorité de la concurrence. Vous savez très bien que sur le bassin ajaccien, il y a déjà 3 grosses enseignes qui sont implantées. Ça laisse beaucoup d'inquiétude. Mais bon, pas que. Hein.
Alors, ces débats en coulisses sur l'identité du futur repreneur, le groupe qui pourrait afficher son enseigne au fronton des magasins, cela intéresse aussi les clients. Mais pas pour les raisons que l'on pense. Pour des raisons bien différentes, Christophe Dudichel a rencontré quelques clientes du groupe Casino.
J'attends de voir qui va être le repreneur, puisqu'apparemment la Corse n'a rien à voir avec les casinos du continent, parce que je crois que sur le continent ça a déjà été décidé. Parce que j'ai envie que ça change. Les prix sont trop chers, sont trop élevés. Mais là je trouve que quand même c'est de plus en plus cher. Il ne s'aligne pas en fait avec les autres enseignes.
Moi j'aimais beaucoup Casino au début. Maintenant, ça a changé. Alors maintenant, c'est une question d'argent. Et c'est pour ça que peut-être, ils ont des problèmes. Mais moi, j'aimerais un casino moins cher.
Bah déjà que les prix soient moins chers, clairement, parce que là, c'est vrai qu'au niveau des prix, on est sur des paniers quand même bien trop élevés. On vient quand même, parce que c'est la facilité. Mais là, on ne va pas faire des grosses courses. Hein. On va juste prendre ce qu'on a besoin. Parce qu'on doit aller dans une boutique à côté. Mais sinon, on ne fait pas les grosses courses ici. Hein.
Allez, on change de sujet. On parle des cérémonies du 5 mai et de ces 200 collégiens venus de toute la Corse qui étaient réunis hier dans les salons du stade Armand Cesari. Comme l'an dernier, dans le cadre des commémorations de la catastrophe du 5 mai, les élèves vont à la rencontre des membres du collectif des victimes, mais aussi d'anciens joueurs du SCB ou encore des journalistes qui étaient présents à l'époque. 32 ans après ce drame qui a fait 19 morts et plus de 2300 blessés, c'est le temps de la transmission auprès des jeunes générations et c'est très important. Reportage Christophe Dudicelli.
Ce 5 mai 1992, ils étaient joueurs de foot, journalistes ou encore supporters. Devant les collégiens, ils détaillent l'horreur de cette soirée de football, cette tribune qui s'effondre. 3 décennies plus tard, le drame est encore présent dans les mémoires même de ceux qui ne l'ont pas vécu. Mathéa est en 4e au collège Simon Vinciguer à Bastia.
Quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais dont on nous parle très souvent à l'école, à la maison, etc. On se dit que là, on a une tribune qui est quand même très belle et que le jour du match, le 5 mai, la tribune était dans des normes pas possibles. Et donc on se dit qu'on a la chance de pouvoir monter dans des tribunes aux normes comme celle-ci.
Des rencontres appréciées par Mélina, sa camarade de classe.
On arrive à connaître la vie de tout le monde et les beaucoup plus de détails.
Des échanges et surtout des interrogations pour Maté et Andjoulouzante.
Les gens, ils se sont précipités. Il s'est passé un drame qui n'aurait peut-être pas dû exister.
La preuve en est que pas tout le monde est ressorti vivant. Et la leçon à retenir, c'est qu'il faut prendre son temps et
Pour Christelle Pauge, leur enseignante, il est frustrant de ne pas pouvoir apporter toutes les réponses.
Ils disent, madame, pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça alors qu'ils savaient pertinemment que ça ne tiendrait pas ? Eh bien, on n'a pas la réponse, puisque la justice ne nous en a pas donné l'occasion non plus. Ben, c'est très frustrant. Personne n'a la réponse encore aujourd'hui, malheureusement.
La catastrophe de Fouriagne a causé la mort de 19 personnes et fait plus de 2300 blessés.
La politique, la session de l'Assemblée de Corse poursuit. Aujourd'hui, on parle notamment d'attractivité économique, de transmission d'entreprises, d'emploi et de RSA, d'énergie et du calendrier scolaire 2024-2025. Hier, deux rapports votés par l'Assemblée de Corse pour demander au total 74 millions d'euros à l'État. Le premier concerne la DCT, la dotation de continuité territoriale qui finance le service public aérien et maritime. L'autre, un rattrapage des dotations venues de Paris. Gilles Simeone y veut remettre les compteurs à zéro. Il parlera de ce nouveau cap transitoire avant l'autonomie. Et avant cela, il est l'invité de la rédaction et répond aux questions de Paul Ourtoli.
Gilles Simeone, bonjour.
Salut.
Donc deux rapports pour demander 74 millions d'euros à l'État, hier à l'Assemblée de Corse. Est-ce que c'est le bon moment alors que le gouvernement cherche 10 milliards ?
Et c'est le moment, hein, en tout cas, qui est nécessaire pour que la Corse puisse faire face aux obligations qui sont les siennes. D'un côté, avec les nécessaires cité exigence du service public dans le domaine maritime aérien, et de l'autre, un rattrapage pour un certain nombre de dispositifs au titre desquels la Corse, ces dernières années, n'a pas eu droit à ce à quoi elle avait droit.
Vous avez dit que c'était un dispositif à court terme, un dispositif transitoire, mais est-ce que ces demandes ne sont pas un peu en décalage avec le processus sur l'autonomie ?
Non, pas du tout. Il y a à la fois une exigence de court terme, et puis il y a une discussion de fond que nous allons avoir sur le nouveau pacte budgétaire, fiscal et financier, non seulement entre l'État et la collectivité de Corse, mais entre l'État et l'ensemble des collectivités en Corse, y compris les communes et les intercommunalités, puisqu'on sait qu'on est aujourd'hui dans une équation budgétaire structurellement insuffisante qui ne nous permet pas de faire face à nos besoins, notamment en termes d'investissement, par exemple dans le domaine des infrastructures. Ceci étant posé, il y a également des exigences absolues. La première de ces exigences, c'est de pouvoir continuer à exécuter les contrats de délégation de services publics dans le domaine maritime et dans le domaine aérien, des contrats qui ont été votés souvent à l'unanimité pour un périmètre de service public qui a été validé. Il y a à la fois le besoin d'assurer ce service public dans le domaine maritime et aérien pour la Corse et pour les Corses, et le besoin aussi de garantir notamment l'emploi direct et indirect chez les compagnies attributaires. Or, du fait de l'augmentation de la fiscalité écologique, du carburant, de l'inflation, il manque structurellement aujourd'hui environ 45 millions d'euros par an dans l'enveloppe de dotation de continuité territoriale, et ce, parce qu'elle n'a plus été réindexée depuis 2009, ce qui est une injustice flagrante.
Et du quoi qu'il en coûte ?
Non, c'est simplement l'application mécanique de décisions qui d'ailleurs ont été prises ailleurs. Je rappelle par exemple que les dotations qui sont consenties aux régions de droit commun pour assurer la compétence en matière de desserte dans le domaine ferroviaire ont été transformées en TVA et donc sont évolutives avec une forte dynamique, tandis que notre dotation de continuité territoriale est figée, alors même qu'elle aurait dû être réindexée et transformée en TVA en 2017. Cette décision qui avait été prise dans un premier temps a été ensuite remise en cause. Double injustice donc.
Pourquoi ne pas avoir parlé de cette double injustice pendant les discussions du processus de Beauvau ?
Ben, nous en avons parlé depuis plusieurs années et concernant les deux dispositifs. Par exemple, pour la DCT, à plusieurs reprises, j'ai saisi les ministres et chefs de gouvernement successifs. Nous avons eu gain de cause partiel, puisque je rappelle qu'en 2022 et 2023, nous avons eu des majorations de la dotation de continuité territoriale, 33 millions, 2022, puis 40 millions, mais simplement à titre exceptionnel et dérogatoire. Aujourd'hui, il faut réussir à pérenniser cette majoration, étant précisé que nous savons que dans le temps des contrats de délégation de services publics qui sont en cours, c'est-à-dire 2021-2027 pour le maritime et les 4 années à venir pour l'aérien, nous devons également réfléchir à une évolution de notre modèle en concertation avec l'ensemble des acteurs.
Sortir de la gestion d'épicier, c'est ce que vous a dit une partie de l'opposition.
Bon, c'est pas une gestion d'épicier, au contraire, c'est une gestion vertueuse qui a permis, par exemple, je le rappelle, de dépenser en début de mandature 84 millions d'euros, où nos prédécesseurs dépensaient 130 millions d'euros. Donc, Donc, on ne pouvait pas faire mieux que ce que nous avons fait. Nous avons sauvé le principe du service public. Nous avons attribué souvent à l'unanimité. Nous l'avons fait dans des conditions irréprochables juridiquement. Nous avons eu le souci à la fois d'une desserte efficace, de l'intérêt économique, d'une bonne gestion de l'enveloppe de continuité territoriale. Maintenant, il faut mettre en adéquation le principe du vote et sa prise en compte budgétaire.
On voit que la notion de service public, elle est attaquée de toutes parts. Hier, à l'Assemblée de Corse, il y a eu une question sur la ligne Lille-Rousse-Toulon. L'Europe mène une enquête. La Chambre régionale des comptes s'interrogeait sur les dépenses de l'Office des transports. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer un nouveau modèle de service public aujourd'hui ?
Oui, il faut certainement réinventer un nouveau modèle de service public, mais réinventer un nouveau modèle de service public, ça ne veut pas dire détruire le service public, et ça ne veut pas dire non plus aller vers des options ultra-libérales qui risquent demain de coûter très cher, non seulement en termes financiers, mais également en termes d'équité sociale et territoriale pour l'ensemble des Corses et pour l'ensemble des territoires de l'île.
Ne pas laisser le marché tout réguler.
Le marché ne peut pas tout réguler, et d'ailleurs, beaucoup d'îles d'Europe et de Méditerranée nous envient notre système. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas perfectible.
La droite, elle, dénonce une sorte d'impréparation. Comment est-ce qu'on peut convaincre le gouvernement de la nécessité de cette rallonge budgétaire ?
Bon, il y a nécessairement dans tout débat politique une part de critique qui est développée par l'opposition, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'impréparation. C'est une course au Akifar Intio, et il faut continuer, remettre l'ouvrage sur le métier et aboutir. C'est le sens du vote à l'unanimité de l'Assemblée de Corse.
Vous allez demander les arriérés, donc ?
Les arriérés, non, mais en tout cas, une prise en compte qui est simplement l'application, encore une fois, des règles, modèle budgétaire qui soit soutenable, qui soit sérieux, qui soit vertueux, mais qui permette aussi à la Corse eh bien, de faire face aux enjeux du 21e siècle.
Gilles Simion dit merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie.
Allez, on change de sujet. Dans quelques heures, la flamme olympique changera de nation. Elle sera française après son allumage à Olympie la semaine dernière, après un relais partout en Grèce. Elle est transmise ce soir à Tony Estanguet, le patron des Jeux de Paris, après une cérémonie dans le stade antique d'Athènes, comme le veut la tradition. C'est entre 17h20 et 18h25. Et dès demain matin, la flamme sera à bord du Belém, le plus ancien voilier français, pour une traversée de la Méditerranée de 12 jours. Jusqu'à Marseille. Ce sera une première dans l'histoire des JO. Le Belém est arrivé au port du Pirée en début de semaine, prêt pour cette navigation historique. En Grèce, le reportage de Jérôme Val.
Au milieu des ferries et des bateaux de croisière, le Belém avec sa coque noire et blanche détonne un peu au port du Pirée. Le trois-mâts construit en 1896, l'année des premiers JO de l'ère moderne, patiente en attendant sa précieuse cargaison.
Cette flamme, on va l'accueillir ici dans ce ancien grand salon de réception qui date de l'époque anglaise.
C'est le grand rouf au milieu du voilier, Aymeric Gibet, le commandant du Belém depuis 8 ans.
On ne s'interdit pas de la sortir de cette pièce pour qu'elle puisse un peu voyager à travers le bateau, voir du paysage. À titre personnel, je la considère vraiment comme le 49e homme, le 49e personne qui vient avec nous en plus.
La flamme, c'est en fait une petite lanterne surveillée comme le lait sur le feu pour qu'elle ne s'éteigne jamais durant la traversée.
Il faut savoir qu'elle est accompagnée par des gardiens de flamme qui, leur mission à bord, eux, sera de surveiller cette flamme. Tout est sécurisé.
En plus des 16 membres d'équipage, le Belém embarque 16 jeunes sélectionnés partout en France, comme Wari Belkouane, 20 ans, originaire de Marseille.
C'est la plus grosse responsabilité que j'ai eue de toute ma vie parce que je représente les jeunes pour les Jeux Olympiques. C'est énorme. C'est the responsabilité.
Avec un impératif, arriver dans le Vieux-Port de Marseille le 8 mai.
Et après le 8 mai, il y aura la Corse à Porto Vecchio. Comme ailleurs chez nous, on se prépare au passage de la flamme. C'est le 14 mai. L'événement sera à vivre sur RCFM. Ceux qui la porteront n'ont pas encore été désignés par le comité d'organisation Paris 2024 à Porto Vecchio. Il n'empêche que le programme est, lui, bien arrêté. Avant que la flamme officielle ne circule dans les rues de Porto Vecchio, l'après-midi, près de 300 enfants scolarisés dans la cité du sel se relaieront le matin au stade Clopapi avec une réplique porto-vecchiaise de la flamme. L'adjointe au sport Véronique Philippe détaille ce programme olympique.
Pour le passage de la flamme, on aura deux temps forts. Le premier au stade Claude Pape, avec 280 enfants de nos écoles qui vont se regrouper pour faire une simulation des anneaux de la flamme sur le stade. Et ensuite, qui pourront participer à différentes activités sportives. Et l'après-midi, donc, on va retrouver beaucoup de ces enfants aussi sur le parcours de la flamme, puisque le parcours va passer devant toutes les écoles. Entre 15h15 et 15h40, la flamme passe dans la ville. Et à ce moment-là, je crois qu'on est à 780 ou 800 élèves de la micro-région qui vont venir voir le passage de cette flamme.
Alors, dans les écoles, un concours d'affiches a été organisé. Nathalie Maizette, l'élue en charge des affaires scolaires, a expliqué comment les enfants ont pu se documenter sur l'événement et comment ils l'ont associé à leur environnement très proche.
Le but était de faire représenter aux élèves ce passage de la flamme olympique à Portivitch. Alors, quels étaient les éléments qu'ils allaient mettre en œuvre? Est-ce que c'était des repères visuels, géographiques, comme par exemple le bastion, les marais salants? Là, on a une proposition aussi avec le nom de Claude Pape. L'idée, c'était quels étaient pour eux les éléments qui représentaient la ville. Et ce passage de la flamme a mis quand même en lumière ces différents endroits. Et ils ont pu s'exprimer à travers les arts plastiques aussi. Ça nous a permis de travailler sur l'histoire de l'olympisme, sur la mythologie, grâce aux 12 travaux d'Hercule. Donc ce 14 mai, on l'attend quand même un petit peu avec impatience, parce que c'est vraiment le point d'orgue, je pense.
On attend tous avec impatience ce 14 mai, jour où la flamme olympique sera en Corse. On change de sujet, déjà aujourd'hui, vendredi 26 avril, c'est la journée internationale des chiens guides. Eh oui, alors on rend hommage aux chiens de travail, chiens voyants, plus communément appelés chiens guides, des compagnons qui sont là pour assurer la sécurité des personnes malvoyantes, aveugles ou sourdes. Dans ce journal, un témoignage, celui de Jacques. Il est aveugle depuis maintenant 10 ans et il témoigne de l'importance de son chien au quotidien.
Le chien va partout avec moi, il est constamment avec moi, 24 heures sur 24. S'il veut aller me balader, il vient avec moi se balader. N'importe quel trajet, il les connaît par cœur. J'ai été privé de chien là pendant une petite année parce que j'ai dû changer de chien. J'ai dû reprendre la canne blanche. Et ben, je peux vous dire que je suis malheureux avec la canne blanche. C'est pas du tout pareil. Les gens, vous voyez pas pareil. C'est-à-dire que avec le chien, vous avez un meilleur contact avec les gens. Ils ont pas le même approche. C'est-à-dire que le chien, il est pour beaucoup. C'est-à-dire que les gens aiment bien les animaux. Et puis, ce sont des chiens qui sont très sociables, très agréables, et ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'aide quand on a le chien que quand on a la canne blanche. Avec le chien, j'ai quasiment la vie normale.
Allez, suite et fin maintenant de notre série de reportages que Jérôme Souzigne nous ramène de Naples. L'audiovisuel de Méditerranée y était réuni. Rencontre ce vendredi avec la directrice des programmes de Radio Liban.
Rita Nojaim de Radio Liban, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Quand un pays est en conflit ou dans la tourmente, ou la radio, ça a dû, en certaines périodes chez vous, rester un outil essentiel.
La radio nous a accompagnés durant toutes les périodes difficiles, surtout qu'on a vécu dans notre pays, parce qu'on a vécu de longues années de difficultés, de circonstances difficiles, de guerres et tout ça. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas la stabilité dans notre pays. Alors c'est la radio qui donne l'info. Quand on parle de Radio Liban, c'est la radio publique, la radio officielle, qui donne les infos qui sont à 100% sûres. On a un site là où on est... Tout le monde aussi consulte ce site qu'on appelle le CheckFat. Ils savent qu'on est en train de donner les infos qui sont sûres et qui sont correctes.
Le grand souci aujourd'hui du Liban, c'est la situation économique. Est-ce qu'une radio continue à pouvoir fonctionner, à se développer dans un tel climat?
Vous avez raison, Jérôme. La situation économique est difficile dans notre pays, comme tout le monde le sait. Et nous faisons partie aussi de cet état. En tant que radio, la radio publique ou la radio officielle. Donc la situation économique nous atteint aussi. Vraiment, c'est la passion qui nous guide pour donner le meilleur travail. Je parle de Radio Liban. Les autres radios qui sont des radios privées, peut-être ils sont dans une situation économique un peu meilleure.
Et pourtant, il y a de l'espoir. Et la paix qui est espérée.
Oui, certainement. On a toujours gardé l'espoir. On espère que demain sera mieux. On espère qu'on vivra des meilleurs moments dans le futur proche. On a toujours gardé cet espoir. Parce qu'on a surpassé beaucoup d'épreuves. Et on est convaincu que le meilleur nous attend. Malgré tout.
Et souhaitons justement que le meilleur revienne vite pour nos amis de certains pays et ces radios de Méditerranée.
Et on souhaite le meilleur bien sûr à nos amis libanais. Voilà pour l'information à 12h25 sur RCFM. Retour de l'actualité sur RCFM, la radio, c'est à 16h. L'info, vous le savez, c'est quand vous voulez sur Bleu RCFM et nos réseaux sociaux X et Facebook.